Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Haas, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Haas. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas. Jusqu'à hier, notre visite de la châtellerie se déroulait sous les meilleurs auspices. Ce jour, l'orage éclate. C'est une image. Au milieu de la journée, on est tombé sur une scène de massacre. D'après le seul survivant, un moine fou a tué tout ce qui bougeait. Femmes, filles, cochons, poules, chats, etc. J'ai autorisé le chasseur à poursuivre le meurtrier.
Quand on retrouvera le chasseur, il aura pisté le tueur jusqu'à l'entrée des marais. Le village des pêcheurs est blotti dans une espèce de presqu'île qui avance dans le lac. Tout au plus, une dizaine de huttes en roseaux se tiennent chaud. Sur un des côtés, le lac devient marais avec des roseaux. Les marais se terminent en zone humide avec des petits bosquets de bouleaux. Si on réfléchit bien, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Il y a une zone humide qui devient marais et les marais finissent en lac. C'est mieux dans ce sens. Ici, les hérons sont rois. Ils concurrencent les pêcheurs. Ils bouffent les poissons et les grenouilleurs bouffent les oiseaux à la broche. Ce n'est pas très bon, mais c'est mieux que rien. Grenouilles, poissons et hérons à midi, et l'on recommence le soir. On prend langue avec le chef du village. Le chasseur l'a déjà informé de la situation. Il pense que si le moine noir est entré dans le marais, on leur sortira en organisant une battue. Comme on est en pleine fonte de neige, le niveau d'eau est assez haut, ce qui rend les déplacements dans les marais compliqués, surtout quand tu ne connais pas le terrain. Mais il y a des doutes sur une présence étrangère. Ils n'ont rien entendu. C'est un système très particulier et l'eau propage les bruits mieux que sur terre. Les odeurs, les bruits, les brumes qui se lèvent sur le lac réveillent en moi des souvenirs. D'après ce que j'ai compris de mes origines, je viendrai d'ici. Un vieux demande si je suis Moss. Comme la réponse est oui, il dit qu'il était présent quand on m'a trouvé bébé, flottant dans un panier sur le lac. Les gens du comté d'à côté fuyaient devant une invasion barbare. Beaucoup sont entrés dans le marais. Certains se sont noyés, d'autres se sont perdus. Je devais être un rescapé. Il a fallu un certain temps pour que le calme revienne dans la région. Entre-temps, une famille de pêcheurs m'a recueilli jusqu'à mes 5 ans. Mes parents adoptifs, qui m'avaient appelé Moïse, allez savoir pourquoi, sont morts de la fièvre des marais et le baron a pris au château tous les orphelins du village de pêcheurs. Vous savez peut-être pas tout, mais en tout cas autant que moi. Au matin, battue générale. Tous les valides y participent. 2 barques en roseau rasent les berges du lac pour y trouver des traces fraîches, pendant que, séparés en 2 groupes, nous nous enfonçons dans les marais. Ils connaissent les marais par cœur. Il y a peu de chance, si le moine est passé par là, qu'on ne trouve pas de traces. Lorsque le soleil est au zénith, des coups de corne sonnent la fin de la battue. On rentre par d'autres chemins pour ne rien laisser au hasard. Au village, réunion au sommet. Il est évident que le fuyard n'est pas passé par là. Le chasseur comprend qu'il s'est fait abuser par le moine. En gros, le chien a suivi la mule qui est rentrée chez elle vers le marais, alors que le moine prenait une autre direction. Ça arrive au meilleur, mais ça le met de mauvaise humeur. Seule indication, la mule se dirige vers le comté voisin. L'après-midi, sous le soleil, partie de pêche. Les mules sont libres de se gaver d'herbes fraîches. Le moine fait ses travaux d'écriture. et le chasseur, une sieste polissonne, avec une mignotte bronzée de partout. Il l'a mérité. Le soir, le village nous sert un repas de fête. Ce n'est pas tous les jours qu'ils reçoivent des étrangers. En entrée, poisson fumé, cuisse de grenouille, plat principal, poisson au gril avec sa salade de cresson, exceptionnellement du pain cuit dans la nuit. On participe en leur donnant l'outre de pinard qu'on trimballe depuis 2 jours, cadeau des bandits pour la route. Comme c'est mon jour de chance, la mignotte, qui a assisté avec le chasseur, a une sœur. Je ne le regrette pas. J'ai appris la position de la grenouille sauteuse et la langue de salamandre. Puis, je me suis endormi moins con. 6 heures sonnent au clocher de l'église. C'est une image. Il n'y a pas une seule église digne de ce nom dans le comté. On se met en branle pour le manoir de Gaston Lebègue et Raymond Leborgne. Les mômes vont nous guider pour couper à travers les marais. Le moine ne peut pas s'empêcher de nous montrer des drosseras, plantes carnivores, ni de nous parler des feux follets et autres manifestations du diable sur les marais. Les enfants sont sur le cul devant tant de science. Arrivés sur la terre ferme, il nous faut piquer à l'est et c'est toujours tout droit. Le moine se croit obligé de bénir les gosses qui repartent chez eux. Je fais la remarque à mes compagnons que depuis qu'on a quitté le château, on nous a toujours dit que c'était tout droit. Tu ne peux pas comprendre encore. Ça tourne tout le temps, mais c'est tout droit. Ça fait maintenant 2 jours qu'on a quitté les marais et on est remonté sur une espèce de plateau calcaire. C'est plat sans être monotone. Des petits bois parsèment le paysage. Plus on avance, plus ça paraît ordonné. Depuis 1 heure, entre autres, entre des murets de pierre qui délimitent des parcs à moutons. On rencontre aussi des dolines, closées avec murets ou haies en branchage. La terre dans ces dolines est noire et travaillée. Maintenant qu'on approche d'une demeure, on marche littéralement sur du buis écrasé et mélangé à de la crotte de mouton. Par ici, ils appellent ça du migou, avec lequel ils fument les jardins. On sort enfin de cette draille et on débouche sur une prairie très rasée à l'arrière. Nous sommes arrivés chez Gaston Lebègue et son frère Raymond Leborgne. On fait le tour de la maison accompagné par 2 ou 3 gueux qui nous saluent en enlevant leur coiffe. C'est un ensemble de bâtiments en pierre calcaire. Le plus grand ressemble à une gentilhommière, en L. Le grand côté, avec un étage, est charpenté pour le toit. Le petit, bras du L, entièrement en pierre. Toit en lauze calcaire. Les autres bâtiments, granges, bergeries, porcheries, sont de même facture. Toit en lauze, pas d'étage, genre construction voûte. L'ensemble donne l'impression d'avoir été construit comme ça vient. Pas de cour fermée, c'est ouvert aux 4 vents. Gaston Lebègue nous accueille sur le pas de la porte. Vous allez me dire, comment s'étant que c'est Gaston Lebègue, vu qu'on ne se connaît pas? Il suffit de l'écouter parler. Vous n'avez aucune chance de vous tromper. On s'assied sur un banc de pierre, il fait servir de l'eau fraîche et donne des ordres pour qu'on nous apporte quelques victuailles. Avec Gaston, on est à l'extrême opposé de Bertrand le Peutre. Il est vêtu comme un paysan, sabot aux pieds, chapeau de paille sur la tête. Pour oser une image hardie, Bertrand le Peutre pète dans la soie et notre Gaston sent plutôt le fumier. Ce n'est pas pour me déplaire. J'ai toujours pensé qu'il y avait des odeurs qui ne sentent pas bon, mais qui sont agréables. Le chasseur a pris langue avec un palefrenier qui va lui faire visiter les écuries. Le moine s'étonne de ne pas avoir de présence religieuse dans ce lieu. Il lui a répondu que la maison se débrouille très bien sans les parasites de l'église. Le ton est donné, ça me va. Gaston nous explique que son frère est parti ramasser les moutons. Demain, c'est jour de tonte. En fin de journée, il risque d'y avoir encombrement dans le quartier. Le troupeau de moutons compte aussi les chevaux, les bœufs, les mulets, les ânes et les chèvres. Il va falloir trier tout ce petit monde, mettre chacun dans cet enclos. Ça peut prendre toute la nuit. Pour ça, une vingtaine de paysans sont venus prêter main forte. En attendant le retour des bêtes, on se la coule douce. À part une ou deux paysannes et les cuisinières, je n'ai pas vu de présence féminine. Les deux frères ne sont pas accompagnés. En tout cas, pas par des donzelles. Ils ont eu femme, mais les aléas de la vie font qu'ils se retrouvent seuls, l'âge venant. Jusqu'à l'année dernière, leur sœur vivait avec eux. Elle a disparu un jour et on n'en a plus entendu parler. Ils n'ont pas l'air d'être malheureux. Je profite que le temps soit suspendu pour vous dresser un tableau du domaine des deux frères. Gaston a le titre de baronnet, héritage de maman qui a survécu un certain temps à son baron de mari, mort de la maladie de l'ergot de seigle, qui en avait séché quelques-uns dans la région. Son frère, plus jeune, n'a aucun titre et s'en fout comme de sa première bergère. Si le domaine de Gaston le Pleuvre est tourné vers l'industrie, mines, charbonnage, gros moulins, ici, on est les pieds dans la glèbe, moutons, chevaux, bœufs, mulets, cochons. Enfin, tout ce qui broute et qui est bienvenu. Les moutons sont vendus sur les marchés, la laine et le lin sont travaillés. Ils ont un moulin pour fouler et une dizaine de femmes travaillent au filage et au tissage. Avec les chevaux, ils s'essayent à un élevage de roussins, petits chevaux à tout faire. Ce sont eux qui fournissent en partie les écuries du château. Leur troupeau compte quand même une bonne cinquantaine de bourrins. Ils ont fait acquisition de chevaux andalous pour les croisements. Les porcs sont engraissés et charcutés. Ils finiront sur les marchés alentour. Ils ont autorisation de la baronne de vendre la production à l'extérieur du canton. Une partie des cochonailles part au château. On pourrait dire que le domaine de Gaston le Bègue est un peu comme la ferme du château. Je crois comprendre que Gaston le paysan et Bertrand l'industriel s'ignorent gentiment. Ce n'est pas le même monde, même s'ils sont tous les deux vassals de Frédérune. On raconte notre traversée de la montagne avec les loups. Ils disent que tant que les loups n'ont pas de petits, ils sont calmes. Mais quand les louveteaux naissent, ils deviennent agressifs. On est prévenu que le tri des bêtes va nous amener à tard dans la nuit. Un repas est servi par les cuisines à tous les participants à la lueur des torches. Nous avons été présentés officiellement au reste de la maison et je dois dire qu'on s'occupe bien de nous. Les coupes sont remplies en temps et en heure, les assiettes ne restent pas vides longtemps. Le service est moins voyant que chez Bertrand, mais en fin de compte plus classieux, plus simple et plus convivial. Je reconnais un des bergers qui chaque année conduit le troupeau au château. Le chasseur discute boulot avec le traqueur du domaine. C'est lui qui s'occupe des loups et autres nuisibles. En fin de repas, Raymond, qui est expert au maniement des armes, nous fait une démonstration de tir à l'arc en nocturne. Avec un seul œil, il fait un triomphe. Si j'ai bien compris, au matin, ils vont renvoyer des pigeons voyageurs au château. Quand les pigeons restent trop longtemps dans un pigeonnier, autre que celui d'origine, ils ne retournent plus chez eux. Au petit matin, tonte générale du troupeau. On aide comme on peut. Les moutons, c'est surtout en méchouille que je les fréquente. Le moine profite du calme pour se mettre à jour dans ses notes, sous l'œil de quelques marmots en admiration. C'est décidé, après-demain, on part avec la transhumance vers le château. Parti hier à la fraîche, on avance à la vitesse du troupeau. Une centaine de brebis, c'est tranquille. Les chevaux nous posent plus de problèmes. 10 chevaux, ça ne vous suit pas comme un petit chien. Le pire, d'après les bergers, c'est les chèvres. Elles te font vite tourner en bourrique. Au plus fort de la journée, on repose les bêtes, qui chourent, et on repart en fin d'après-midi, jusqu'à la nuit. Les 5 bergers qui s'occupent du troupeau ne sont pas causants, mais efficaces. Rien à signaler, journée calme, comme on ne court pas après les bêtes. Notez, au bout d'un moment, on maîtrise. S'occuper des bêtes, c'est un métier. Je profite d'une sieste pour vous éclairer sur ce qu'on appelle au château les grandes manœuvres. Une fois par mois, nous avons droit aux grandes manœuvres. La cloche sonne à toute volée. Tu laisses tomber ce que tu es en train de faire et cours au poste qui t'a été désigné. La cour devient comme folle, les gens se croisent dans tous les sens, les poules volent, en gros c'est le bordel. À un moment donné, il est impossible de se situer formellement dans le temps, tout s'apaise. Plus de cris, plus de courses, le calme avant la tempête. Des groupes se sont formés aux endroits stratégiques. Au portail, 5-6 fers guerriers, les professionnels. On en a 10 au château. La reine ne pouvant pas s'en payer plus. Ils gardent l'entrée principale. Bien que chaque mois, ce soit exactement le même schéma, c'est toujours le grand n'importe quoi. Entre ceux qui ne trouvent plus leur arme ou leur casque, le connétable qui peste parce que son cheval n'est pas scellé à temps, les ceux qui ont justement besoin de pisser pile à ce moment, et la reine qui s'en mêle, c'est le grand foutoir. La dernière fois, les auxiliaires médicales ne retrouvaient plus le brancard. Il faut dire qu'ils avaient servi à autre chose. Personne ne se rappelle à quoi, mais ce qui était sûr, ils n'étaient plus à leur place. Pour ma part, j'ai un rôle éminent. Je note les gens qui sont là et je mesure le déroulement des opérations. Pour ce faire, j'ai plusieurs sabliers de vitesses différentes. Celui du portail est court, c'est pour les pros. Celui de la 3e ligne de défense est plus long. Cette ligne est constituée des gens de la maison armés de pieux qui sont censés, si les défenses avancent, cèdent, empêche l'envahissement de la maison et laisse le temps à sa seigneurie et les siens de fuir en campagne par une porte dérobée. Le moyennement long mesure le temps pour que les archers se mettent en position. Le plus gros, donc le plus long, mesure le temps que les habitants du village mettent pour venir à notre secours. La reine, qui n'est pas reine pour rien, a imaginé une manœuvre audacieuse en cas d'attaque du château. Les serfs du village, le plus proche, armés de faux droites, doivent pouvoir prendre à revers des assaillants qui essaieraient de forcer le portail. Pour que cette manœuvre réussisse, j'estime le temps que devront tenir les premières lignes à une bonne heure, voire plus. Il va sans dire que les délais ne sont jamais respectés et que ce n'est de la faute à personne. Mais on peut se poser des questions. Est-ce vraiment utile qu'une 10aine de fiers cavaliers se prépare à une charge frontale contre l'ennemi en tournant dans la cour du château, attendant leur heure de gloire? Pour peu que les assaillants aient des arcs, nous risquons un massacre au passage du portail. Lors du dernier entraînement, seuls 2 cavaliers se sont retrouvés sur le champ de bataille en dehors de la cour. Au signal, ils sont tous partis de front pour sortir par un portail de 4 mètres de large. Il y a eu embouteillage, 3 se sont foutus la gueule par terre, mais aucun cheval n'a été blessé. Ça fait du travail pour les auxiliaires médicales. Au lieu de porter des brancards avec sacs de blé, elles avaient des vrais blessés. Pour la grande manœuvre, tous les habitants du château ont une tâche bien établie. Certaines femmes et enfants remplissent des seaux d'eau à l'avance pour éteindre les débuts d'incendie en cas de volée de flèches enflammées. Comme on l'a vu plus haut, en cas de grand danger, je laisse tomber mes sabliers. J'ai la charge d'une petite escouade au-dessus des bains, sur le chemin de ronde, pour protéger la droite du portail. Il y a la même chose pour la gauche. Au son de la cloche, les palefreniers sellent une dizaine de chevaux. Les cavaliers s'arment et en un quart d'heure maxi, tout le monde doit être en selle face au portail, prêt à faire une sortie. Il y a des escouades de voltigeurs prêtes à gicler par les portes dérobées pour harceler les assaillants. Nous avons même une arme secrète. Sur la tour de guet, une grosse arbalète à double carreau, maniable par deux femmes. C'est une arbalète à manivelle et qui possède trois positions pour la viser. 100 mètres, 150 et 200. Les servantes se fient à des jalons sur le terrain pour la viser. Une volée part. Je me réveille de ma sieste. C'est juste un vol de pigeons qui se pose. Il n'a toujours pas plu. Et deux petites heures plus tard, c'est sous le soleil qu'on arrive à la tourne-bride. Du sanglier en rut. Célèbre dans toute la région, entre autres, pour ses putes. Que du haut de gamme, trié sur le volet par la patronne qui a été première dame chez un noble plus au nord. Il nous faut bien une heure pour parquer et faire boire les bêtes avant de s'occuper de nous. La patronne, Aliénor, nous porte de la bière et nous donne les dernières nouvelles. Folke, le mari, se joint à nous et prend part à la conversation. Avant, c'est lui qui dirigeait l'estaminet, mais ça, c'était avant. Avant qu'il ait une attaque. Maintenant, il fait le yo-yo. Un jour, il est là, un jour, il n'est pas là. On a de la chance, c'est jour avec. Enfin, de la chance. C'est vite dit. Le moine pose la seule question qu'il ne fallait pas poser. « Vous avez du monde ces temps-ci ?» L'autre embraye comme quoi, même qu'ils sont sur la voie romaine, c'est fini l'époque bénie. Plus personne ne passe, ou alors ceux qui passent, soit ils ont été détroussés par la compagnie du grand Louis dans le comté d'à côté, ou ils ont été payés l'octroi au guet chez Bertrand le Pleutre. Dans les deux cas, plus un rond pour le petit commerce. Sans parler des invasions qui ne viennent plus jusqu'à nous. Je réponds. La reine, pas plus tard qu'hier, me faisait part de son profond ennui. Elle trouve, et je peux que lui donner raison, qu'il ne se passe pas grand-chose dans la contrée. Aliénor renchérit. Avant, on avait les invasions. Je ne dis pas qu'il faut être envahi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quand même, ça faisait de l'animation. Et puis, il y en a qui reste, qui est plus en forme que jamais. Je le disais l'autre jour, ça manque d'invasion. Le moine, qui est heureux d'avoir lancé la conversation, les invasions, il y a du pour et il y a du contre. Le chasseur la ferme, et moi-même, je sens que le débat de merde, ou à la fin, on ne se rappelle plus où quoi et où l'on parle. Alors, je vais vous faire gagner du temps. Je résume, donc, dans l'ordre. On a « Il n'empêche qu'une bonne invasion, ça crée de la vie dans la contrée. Ça nous fait aussi des morts. Ça en fait, mais tous les envahisseurs ne rentrent pas chez eux. Il y en a qui restent sur le pays. » Ça fait du sang nouveau. Une de ces dames se croit obligée de s'inviter au débat. Regardez, moi, ma mère vient du sud et mon père du nord. Il n'y en a pas un qui est né ici pour l'instant. Je suis bien là. Aliénor, qui est de mauvaise humeur, remarque que si ses parents étaient restés chez eux, ce n'aurait pas été plus mal. Mais Tromi, c'est le nom de la ribaude, annonce que si sa présence gêne, elle peut aller proposer son cul et ses nichons ailleurs. Folke, à un sursaut avant de retourner dans ses rêves, annonce que des culs comme le sien, il en ramasse 10 en se baissant. C'est le mot de trop. La métronie le chope au collet et lui met un coup de boule qui l'envoie paître sur le plancher. Le nez en sang, il sanglote que c'est dégueulasse de frapper un infirme. Après, il retombe en béatitude. On a juste le temps d'arrêter la gourgandine qui allait le finir à coups de latte. Aliénor chope Métroni par les cheveux. Les copines ne peuvent laisser une des leurs dans la mélasse et tombent sur le couple de gargotiers. Deux clients qui, jusqu'à maintenant, profitaient du spectacle s'en mêlent. Le moine, qui veut faire la police, prend un coup de pied mal placé, tombe à genoux en poussant des petits cris. Le chasseur et moi-même, on prend un pichet plein, on sort au soleil, attendre que l'orage passe. Nous n'avons pas à nous mêler de différents domestiques. Nous allons aux cuisines, les bergers y sont déjà attablés. Un seul est resté près du parc. On ne laisse jamais les bêtes seules. On s'invite, le cuistot nous sert un bol de haricots avec lard. On commence à établir le plan de marche pour le lendemain. On doit être à 2 lieues du château. Ce sera la dernière petite étape. On remettra les bêtes au connétable et vacances pour tout le monde. Je veux dire qu'on sera rentré à la maison. C'est pile poil au moment où on attaque le fromage que tout a basculé. Une troupe de cavaliers stoppe devant l'auberge. On sort pour se renseigner. On tombe sur Raymond Le Borgne en tenue de campagne, à la tête d'un groupe d'hommes en armes. Ses premiers mots sont « Je suis content de vous rattraper ici ». Il demande de l'eau pour lui et ses hommes, ordonne qu'on décèle les chevaux et qu'on les fasse marcher avant de les abreuver. On s'assied, il explique. Dans la journée, on a reçu un pigeon voyageur du château. Il me tend le message.